19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 20h, vous le savez hein, maintenant, la chanson, vous la connaissez. Analyser, décrypter, commenter l'actualité tous ensemble. Alors, comme invité aujourd'hui, nous allons avoir donc un imam que vous connaissez très bien, puisqu'il officie sur Beurre FM avec l'islam au présent. Dans une poignée de minutes, il sera avec nous, c'est l'imam Abdelali Mamoun, pour revenir sur la formation des imams, mais aussi sur plein de choses, effectivement, concernant le statut et les droits de l'imam. Ensuite, vous savez, 01 53 48 3000. Ça, c'est le standard, votre standard. Vous nous appelez, vous intervenez avec, à la fois, le doigt d'honneur d'Éric Zemmour. Est-ce que vous trouvez que ça le disqualifie? Est-ce que vous trouvez que c'est un véritable fiasco? On en parle tout à l'heure, aussi, également avec vous. Et puis, on parlera aussi de cette mutation du Covid. Le choix d'Omicron, Omicron, pour désigner le tout nouveau variant, qui n'est pas du tout anodin. Hein. Alors, certains disent qu'il est extrêmement contaminant, d'autres qui disent qu'il est contagieux. Enfin bref, est-ce que tout cela, ça vous effraie? Nous en parlerons aussi au 01 53 48 3000. Et puis le face-à-face, c'est avec un élu du Conseil régional, Philippe Nadji-Bouriaki, face à Pierre-Henri de France Fraternité. C'est parti. Les informés, c'est maintenant, c'est tout de suite, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité
les informés, l'interview.
L'interview, c'est tout de suite, c'est maintenant avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour mon cher imam, comment ça va?
Bonsoir Adil, ahlan wa sahlan marhaban, bienvenue à toi et à moi sur cette belle émission Les Informés.
Merci. Merci voilà, Imam Abdelali Mamoun, je le rappelle à nos auditeurs que vous êtes sur l'antenne de Beurre FM dans l'islam au présent qu'on retrouve donc tous les samedis.
Tous les samedis de 10h à 11h.
Absolument.
Ceux qui veulent sont les bienvenus.
Très bonne émission d'ailleurs à samedi écouter avec beaucoup d'attention. Dites-moi Imam Abdelali Mamoun, vous êtes le tout nouveau président de la commission déontologique du Conseil national des imams, ce qu'on appelle le CNI, qui est tout nouveau d'ailleurs. Le CNI, est-ce qu'on peut rappeler évidemment la création de ce tout nouveau conseil, mon cher imam? Est-ce qu'il y avait cette volonté, vous concernant vous imam, de créer un nouveau conseil?
Alors d'abord, quand on dit conseil, on peut parler effectivement de nouveau parce qu'il existait déjà un certain nombre de conseils nationaux. Vous aviez d'abord le Conseil des imams de France qui avait été créé en 92, comme vous le savez, à la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie, et bon, qui n'a pas fait long feu parce qu'elle n'a pas été reconnue par les autorités française, donc les autorités ainsi que même au sud, au sein de la composante musulmane n'a pas joué un rôle important,
oui,
suffisamment riche pour être efficient et reconnu comme étant une référence du culte musulman en France. Vous avez ensuite d'autres organisations telles que Imams de France, qui est la branche des Imams de France de l'organisation de l'UIF qui s'appelle maintenant Musulmans de France. Donc nous souhaitions effectivement, suite à cela, une vraie organisation de l'imamat en France, notamment pour...
Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'elle manque d'organisation, ouais. Parce que les imams sont livrés à eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre qui a été défini. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous aviez envie de participer à cette création du tout nouveau conseil des imams?
Écoutez-moi, Adèle, et j'espère que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire. Pour accueillir du public dans un espace qui doit accueillir du public, on doit respecter un certain nombre de règles de sécurité, pour protéger les corps, c'est-à-dire les issues de secours, les extincteurs, et les produits inflammatoires, voilà, tout ce qui relève des règles pour accueillir un public, pour protéger leur corps. Il est donc aussi important de protéger leur conscience et leur âme. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, que dans une mosquée, des imams officient sans avoir aucun agrément, aucune compétence, et sans qu'on puisse contrôler ce qu'il va dire. Donc ça suffit. Aujourd'hui, des gens meurent au nom de l'islam, avec motivés par des avis et une compréhension erronée de l'islam et biaisée. Donc il fallait qu'on fasse le ménage pour agrémenter et accorder un statut d'imam et de murshida pour les femmes, pour qu'elles puissent assurer l'office et l'animation des rites religieux dans les lieux de culte ou ailleurs. Donc il était donc important que ces musulmans, soit encadré par des imams compétents. C'est pour cela que il y a cet agrément qui va être délivré, mais il y a aussi une formation continue qui va être proposée à ces imams.
Ah ouais, imam Abdelali Mamoun, quel est l'état des lieux aujourd'hui en France des différents imams? Enfin, on a souvent entendu d'ailleurs les imams extrêmement critiqués dans les mosquées pour leur discours parfois radicalisé ou parfois pour leur discours politisé. Qu'est-ce que vous répondez et quel est le paysage aujourd'hui des imams de France?
Ces imams qui politisent la chair pour en faire ce qu'on appelle une tribune dans laquelle ils vont, on va dire, encourager les fidèles à se rebeller contre la société et donc empêcher l'intégration de la composante musulmane de France dans l'espace républicain, c'est totalement inadmissible et irresponsable. Et pour moi, les premiers responsables, ce sont les responsables associatifs, c'est-à-dire ceux qui ont déclaré leur association auprès de la préfecture et qui ont donc construit et géré ce lieu de culte. Dorénavant, les imams devront être homologués et certifiés par la préfecture par le biais de ce Conseil national des imams.
Ça veut dire quoi concrètement, imam Abdelali Mamoun, qu'on va leur délivrer
une obligation de réforme du discours religieux, de s'assurer que l'imam qui tient, qui monte sur la chaire, réserve son discours à la question d'ordre spirituel et comportemental, et en aucun cas de faire de ce mimbar une chaire politique.
Justement, ce Conseil national des imams, en France. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit dire, mon cher imam? On doit dire l'islam en France, l'islam de France, l'islam tout court. Qu'est-ce qu'on doit dire désormais maintenant? Il n'y a qu'un seul islam.
Bon, allez, moi je vais ironiser. Hein, je vais parler d'islam français à la sauce béarnaise. On s'en fout du vocabulaire. L'important, c'est pas de parler d'islam en France ou de France, il est là l'islam, il fait partie du paysage religieux de France, à côté du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme et des autres, le bouddhisme, etc., qui existent en France. Et ils ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ces droits, on les connaît, c'est de pouvoir exercer en public ou en privé dans un lieu de culte décent et adéquat, un culte quelconque, ça c'est la règle pour toutes les religions, mais ils ont aussi des devoirs que ce cadre religieux, c'est-à-dire ce ministre du culte, ne doit pas utiliser sa chair pour monter et encourager les fidèles à se rebeller, à s'isoler, à promouvoir une forme de communautarisme, un repli identitaire, dans lequel on identifierait une démarche de rébellion contre la société.
Dites-moi,
c'est totalement inadmissible.
Dites-moi, imam Abdelali Mamoun, justement, vous faisiez référence à la formation des imams. Est-ce que ce conseil est là aussi, il a pour obligation en tout cas, de donner une espèce de grille de certification pour les imams aujourd'hui en France, dans les différentes mosquées qu'on connaît? D'ailleurs, il y a combien de mosquées en France?
Alors, en France, il y a environ 2600 mosquées. Nous avons à peu près 2000 imams. Les autres mosquées qui n'ont pas d'imam, ce sont souvent des fidèles qui se relaient pour diriger la prière et souvent un membre du bureau de l'association qui va assurer le prêche alors qu'il n'en a pas les compétences. Mais à défaut de trouver un imam, ils sont obligés de faire comme ça. Et c'est souvent des petites mosquées.
Donc,
dans la plupart des mosquées à proprement dit respectables et respectueuses, il y a un imam qui officie, mais qui a des carences, qui a des manquements dans un certain nombre de matières, l'éducation civique, le français, l'histoire.
Donc justement, est-ce qu'il va y avoir un cadre juridique, un cadre religieux qui va définir justement c'est pour remplir les cases pour ces imams?
Alors oui, il y aura trois catégories d'imams, qu'on appelle les fameux statuts de l'imamat en France. Vous avez le certificat de l'imam ratib, celui qui va diriger les cinq prières quotidiennes. Il a un certain nombre de critères pour voir qui sont les moins importants. Vous avez ensuite le certificat de l'imam khatib, celui qui prêche le vendredi. Et enfin, l'imam référent, ou conférencier, l'imam conférencier ou référent, celui-ci est le plus haut degré et qui exige au moins 10 ans dans l'imama, une expérience d'au moins 10 ans dans l'imama.
Donc théologien.
Un diplôme en sciences religieuses, en théologie, etc. Donc tout un ensemble de critères, maîtrise de la langue arabe, du français, etc., etc. Donc quand l'imam a atteint ce degré-là, il est agréé, imam, conférencier, il est référent. Lui,
est-ce que vous allez financer ces formations justement d'imam?
Alors, le souhait, c'est d'abord de travailler avec ce qu'on a, de faire un état des lieux. On a un certain nombre de centres de formation des imams, celui de Al-Razali à la mosquée de Paris, qui a créé des annexes un peu partout en France, notamment au Mureaux, à Lille, à Marseille, à Martigues, à Lyon, etc. Vous avez bien sûr l'USH, l'Institut européen des sciences humaines de musulmans de France, à Château-Chinon et à Saint-Denis, qui propose aussi une formation diplômante pour devenir imam. D'autres instituts vont se former. Ce sont donc aujourd'hui ces fédérations-là qui prennent en charge avec une participation de l'étudiant pour pouvoir recevoir cet enseignement et cette formation. Demain, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une formation d'utilité publique qui pourra recevoir les sadaqat jariya, les mécénats, les dons, etc. Pourquoi pas même rentabiliser la vente de la viande halal ou du pèlerinage à la Mecque pour pouvoir gonfler les caisses nécessaires au paiement à la fois des formations, au financement de ces formations continues, mais aussi, pourquoi pas demain, s'il y a beaucoup d'argent, de salarier l'ensemble des imams de France.
Et qui finance tout ça, mon cher imam ?
Salarié des CNI.
Qui finance tout cela, imam Abdelali Maboul ?
Avec de l'argent français. Les musulmans de France ont de l'argent, c'est à eux de maintenant de financer leur culte. Et que l'imam qui est sur le mimbar, ça soit eux qui soient ceux qui... on va dire comme dans l'église, hein, c'est pas...
Donc un auto-financement.
Voilà, il faut que... Aujourd'hui, les musulmans ne sont plus la masse ouvrière qui touchait un salaire bas. Aujourd'hui, c'est une classe moyenne, c'est une classe supérieure. Ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent, à mon avis, à la fois financer la construction des mosquées qui sont en train de se faire, mais aussi demain, Inch'Allah, s'assurer du financement des salaires des imams et de leur formation. Et en même temps, de pouvoir répandre, de propager des avis religieux émanant d'un conseil théologique qui serait composé des imams référents pour pouvoir donner des avis à ces imams pour qu'ils puissent le relayer à leurs fidèles pour que les musulmans de France n'aient un seul et même avis, y compris dans les médias, qui est fini les micro-trottoirs un peu archaïques, ou qui ne sont pas organisés. Il faudra donc maintenant, pour pouvoir avoir la parole de l'islam, elle devra sortir du porte-parole du Conseil national des imams.
Donc j'imagine que le Conseil national des imams, vous envisagez en tout cas de faire une tournée de France pour aller à la rencontre de ces imams ou pas du tout ?
Nous allons les inviter. Nous allons soit les inviter en allant sur place et organiser des réunions dans les provinces, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille, etc., puisqu'il existe déjà pas mal de conseils départementaux. Nous en avons un dans les Rhônes, à Lyon, nous en avons un à Nice, à Grenoble, à Strasbourg, à Metz, pour la région de la Lorraine, mais aussi à Bordeaux, dans la Gironde. Il existe des conseils départementaux. Eux souhaitent que le CNI soit élu par la base, c'est-à-dire par les conseils départementaux.
Oui.
Sauf que il faudrait pour cela créer autant de conseils départementaux qu'il y a de départements en métropole et voire même en outre-mer. Ça me semble une initiative très complexe et très compliquée à réaliser.
Quel message vous avez envie de livrer à celles et ceux qui vous écoutent, mon cher imam Abdelali Maboul ?
Ouais. Comment ? J'ai pas entendu là.
Quel message vous avez envie de livrer à celles et ceux qui vous écoutent partout en France ?
J'espère que, Inch'Allah, il n'y aura pas de discorde entre tous ces imams-là qui vont enfin réussir à s'asseoir à la table des discussions, y compris ceux qui soutiennent le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui lui souhaite créer un autre CNI, un autre Conseil national des imams, le 12 décembre prochain. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir. En tout cas, aujourd'hui, j'ai clairement, moi, entendu M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur et directeur du Bureau des Cultes, soutenir cette initiative du CNI qui est organisée par la Grande Mosquée de Paris, Musulmans de France, le Rassemblement des Musulmans de France et la FAYACA, la Fédération des Associations Africaines, oui, Comoriennes et Antillaises, voilà, la FAYACA. Donc, ces différentes fédérations ont proposé un soutien logistique, mais ne sont pas élus dans le CNI, puisqu'ils ne se sont pas des imams. Seuls les imams font partie aujourd'hui de ce CNI. Le président Amadou Ba est un imam, il a été imam à Pontoise, il est aujourd'hui imam à Gisors. Dans le bureau, vous avez Cheikh Khaled Al-Harbi, qui est le grand imam référent de la mosquée de Paris. Il y a Safiri, l'imam de la mosquée de Clermont-Ferrand. Vous avez Madame Mariam Berkan, qui fait aussi partie du bureau, qui est la présidente de l'USH de Saint-Denis.
Oui.
Et on a d'autres compétences.
Eh bien, on l'aura compris, effectivement. Merci pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « L'islam contre le radicalisme », un manuel contre-offensive, justement. Je vous invite à aller le découvrir, les amis auditeurs. Absolument. Merci, mon cher imam Abdelalem Mamoun, et qu'on retrouve tous les samedis de 10h à 11h. Merci, imam.
En plaisir, à bientôt.
Merci, nous aussi. On vous embrasse, mon cher imam, 19h16. Le doigt d'honneur, justement, d'Éric Zemmour, est-ce que vous trouvez que c'est un dérapage? Est-ce que ça le disqualifie? 01-53-48-3000. On peut aussi parler de cette guerre, justement. On parle beaucoup d'Algérie-Maroc. Beaucoup se posent la question si la guerre est vraiment possible. Eh bien oui, certains spécialistes disent qu'il y a une espèce de truc, en tout cas il y a une polémique qui grandit et qui vient conforter certains délires. 01-53-48-3000, j'aimerais aussi vous entendre tout de suite maintenant, juste après la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h22, c'est les informés, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de retrouver le face-à-face avec Philippe Nadji-Bourrier qui est face à Pierre-Henri, Auria, bonjour, vous nous appelez de la ville de Lyon. Bonjour Auria.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, bienvenue Auria, on vous écoute.
Eh bien écoutez, ce geste est à hauteur de l'homme.
Oui, Zemmour, hein. On parle d'Éric Zemmour là.
Oui, tout à fait, de Monsieur Zemmour, il faut dire. Donc, du coup, moi, j'inviterai à tous ceux qui ont bientôt l'âge d'aller voter, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de montrer que nous sommes là, que nous sommes vaillants, que nous avons le droit de... Le vote, c'est un devoir. Moi,
vous avez raison de le rappeler.
Sur la Constitution, à toutes les mamans et tous les papas qui écoutent, inscrivez vos enfants qui sont en âge de voter.
Vous avez raison, il faut sans cesse le marteler en permanence, c'est vrai.
Voilà, parce que je suis désolée, dans notre communauté, on a malheureusement le péché de croire que tout vient comme ça. Non, il faut aller se battre et défendre nos intérêts, c'est aller voter, c'est aussi aller voir aussi si on peut pas éventuellement aider dans la commune ou dans les mairies pour se manifester.
Auria, vous donnez le ton et ça tombe bien. Merci et bonne route, hein, surtout. J'entends que vous êtes au volant. Prudence. Allez, merci Auria, merci de votre fidélité. Elle a donné le ton et le ton est ouvert, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Auria dit clairement qu'il faut aller voter. Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour.
Le président de France Terre d'Asile, comment ça va? France Fraternité.
Oui, France Fraternité, comment ça va? Ça va plutôt bien et ravi d'être sur Beurre FM. À vos côtés, cher Adil.
Exactement, et surtout, je le rappelle, encore un peu de pub, votre programme, Les mots piégés, tous les samedis à 8h30.
Absolument, 8h20, le samedi et le dimanche, les mots piégés.
Et ça marche bien, il y a de bons retours.
Débat républicain, oui.
Les retours sont bons, bravo, donc c'est bien. Philippe Nadji-Bourrier, conseiller régional, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment
bonjour,
ça va Marie. On n'arrête pas de taper sur vous, dites donc.
Ouais, mais ça veut dire que
tout un dossier qui est sorti sur vous, rien que sur vous. J'ai vu, vous avez le droit à Mediapart, vous dites donc.
Ah, c'est la consécration,
c'est la consécration, ouais.
Ah bon.
L'homme, il y a eu Benalla auprès de Macron. On a Bourriaki auprès de Yannick Jadot maintenant.
Ouais, mais bon, en fin de compte, non, Bourriaki, soldat du parti et qui va là où on lui demande de faire. Ouais. Des trucs, mais
on vous a comparé au Benalla de Macron. Vous vous rendez compte?
Ouais, c'était pas très 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 cool pour Benalla, je crois.
Bon. Zemmour, le doigt d'honneur qui indigne les politiques. Zemmour, vous savez quoi? Indignation totale, le dérapage de trop. Est-ce que, comme dit Auria, il faut aller, c'est le vote qui passe?
Non, mais...
C'est le dérapage de trop? Pierre-Henri.
Le dérapage de trop.
Non.
Mais enfin, quelle plaisanterie.
Oui.
Le dérapage de trop, la banalisation du grand remplacement, le révisionnisme à l'égard de l'affaire Dreyfus, c'est la réhabilitation de Pétain. Finalement, la vulgarité de ce monsieur se lit dans ce résumé doigt d'honneur. Mmh. Mais moi, ce que je crains surtout,
c'est
que l'opération Zemmour ait été la plus grande banalisation de Madame Le Pen sur ces deux derniers mois. Parce qu'en fait, Madame Le Pen, sur ces deux derniers mois, elle a été à l'abri, et finalement, elle va finir par être beaucoup plus modérée, alors qu'elle porte, en gros, les mêmes thèmes.
C'est ça le risque.
Il est là le risque.
C'est d'attendrir évidemment l'image de Marine Le Pen.
Mais bien évidemment. Ouais. Mais bien évidemment que c'est ça le risque. Et je dis aux auditeurs, attention, ne tombez pas dans le piège.
Donc il a réussi son coup, Zemmour.
Parce que Zemmour, Le Pen, Ciotti ont installé un espèce de discours diffus dans la campagne, oui. La pré-campagne, oui. Présidentielle, qui est terrible. Et donc vraiment Monsieur Z, je m'en moque. Mais par contre, les thèmes qu'il porte et qui sont banalisés aujourd'hui doivent être combattus avec force.
Mais je crois qu'Aurélie avait raison tout à l'heure. Elle disait, le seul moyen, c'est d'aller combattre justement dans les urnes.
Démocratiquement,
Philippe Nadji Moyeki.
Alors, Pierre-Henri, rejoignant des forces démocratiques.
Absolument. Voilà. Pierre-Henri, il dit, le dérapage de trop, non, c'est tout court. Dites quoi ?
Zemmour, moi je l'avais annoncé, j'ai dit que quand le candidat, alors il n'est pas complètement sorti, mais de la droite dit républicaine, quand on voit le discours et le débat de la droite, on pourrait se poser certaines questions. Mais en tout cas, quand le candidat sortira, forcément ça va affaiblir. Il était sur un champ qui existait de droite conservatrice, et donc il récoltait tous ces fruits-là qui ont été, que l'a très bien dit Pierre-Henri, qui a la lepénisation des esprits, rendre franc et comptable Marine Le Pen, la rendre douce par rapport à un gars qui pousse à l'extrême, qui voulait faire un petit peu du Trump, mais avec du révisionnisme, avec des propos islamophobes. Moi, quand tu dis que la France de Vichy a protégé les Juifs, je me dis, mais d'où il sort le type? Il était où à ce moment-là? Il y a un problème. Et donc, forcément, aujourd'hui, il va encore plus loin pour qu'on parle de lui, parce que ça faisait un moment, deux, trois
ans. Alors, pourquoi il a fallu attendre, justement, ce doigt d'honneur d'Éric Zemmour pour dire fiasco, disqualifié, le geste de trop? Pourquoi finalement il se retrouve au centre des critiques, alors que depuis le départ, quand je vous écoute et je tends l'oreille, depuis le départ, il l'est. Alors, que n'a-t-il attendu, justement, tous ces acteurs politiques?
Mais parce qu'il y a une.
Que n'ont-ils attendu?
Il y a une règle dans les médias, hein.
Oui.
On lâche.
On lâche.
On lâche.
Et on lynche.
Voilà, ça c'est la règle des trois L dans les médias. Et donc, les médias ont installé, certains médias ont installé une bulle médiatique autour, évidemment, de toutes les chaînes du groupe Bolloré, chaînes télévisuelles et radio. Ça a été repris ailleurs parce qu'il y a une espèce de course à l'audience. Voilà. Et puis, à un moment donné, eh bien, on lâche le personnage, et puis on va finir par le lyncher. Et vous allez voir que derrière, Madame Le Pen va apparaître comme quelqu'un de tout à fait normalisé.
Normalisé. Mmh. Justement, je voudrais juste, avant de retrouver le quoi de neuf avec Maître Philippe-Henri Honegger, Zemmour, qui a été lâché par un de ses conseillers, justement, qui dit, qui reconnaît, il dit, il est complètement déconnecté du réel.
Ah, oui, la fréquentation des plateaux de télévision.
Code trop bourgeois, entourage défaillant, oubli de la France, enfin, des gilets jaunes, etc. Pierre Meurin, je parle. Hein.
Oui, mais enfin, entourage défaillant, il a recyclé absolument tous les gens qui sont sortis du Front National, les maigrettistes, l'ultra-droite qui est autour de lui. Et donc, il y a une espèce de méli-mélo.
Mais il fustige les latunes, voilà. En tout cas, de cette...
Pardon ? Oui, bah, oui, mais c'est toujours comme ça, dans les ralliés, la dernière heure, dans tous les camps, c'est une règle générale.
19h30, Pierre-Henri, Philippe Nadji Bouriaki, on se retrouve juste après le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque lundi, vous le savez, c'est avec Maître Philippe-Henri Honegger chez Ruben et Associés. Bonjour mon cher maître, comment ça va? Allô? Allô, allô?
Je l'ai pas vu le papier.
Bonjour maître, il est avec nous ou pas? Il, nous a... Qu'est-ce qu'il... il est là? Allô?
Maître, je vais avoir besoin de vous.
Allô, 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 mon cher maître. Bon, on va essayer de le retrouver, on va le rappeler, on va le rappeler. Bon. Je sais pas ce qui se passe, on va le rappeler, mais il n'y a aucun souci, on va le rappeler. Philippe Nadji Bouriaki, qu'est-ce que vous dites, vous, sur le conseiller, quand il dit qu'il est déconnecté du réel, aujourd'hui, enfin, moi, évidemment, hein, il fait, pourtant, c'est pas n'importe qui le dit, hein, c'est un, il fait partie quand même des lieutenants des premiers mois, quand même, hein, ce conseiller.
Non, mais quand le bateau commence à prendre l'eau, les rats quittent le navire, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, Éric Zemmour a occupé une place qui aujourd'hui est en train d'être reprise par les LR.
Les LR. On va tenter de savoir si on a récupéré notre Quoi de Neuf avec Maître Philippe-Henri Honegger. Maître, bonjour.
Je suis là, vous m'entendez cette fois?
Ah, là c'est nettement mieux, Maître Philippe-Henri Honegger. Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, je vous disais, j'ai obtenu une relaxe, je suis ravi.
Ah, vous avez obtenu une Rolex, bravo, je ne suis pas surpris du tout. Je sais que vous êtes un très bon, mon cher maître. Hein. Dans le milieu, évidemment, on parle de vous comme un bon pénaliste. Dites-moi, votre biais d'humeur dans Quoi de Neuf? Eh bien, vous allez parler de l'appel des 3000 magistrats, on vous écoute.
Exactement. En fait, vous avez probablement déjà entendu un ami qui vous dit, vous savez, j'ai un jugement pour la garde de mes enfants, ça fait bientôt 2 ans, 3 ans que j'attends, bientôt ils seront majeurs, ça servira plus rien de se demander la garde. Ou alors, vous savez, une affaire de quelqu'un avec son employeur qui devait lui donner de l'argent, et puis ça fait tellement longtemps que l'argent, on sait même plus où est-ce qu'il est passé. Ou même, peut-être quelqu'un qui est victime de violences familiales et qui vous dit que depuis sa plainte, il y a plusieurs années, plusieurs mois, il n'y a toujours pas de nouvelles et on ne comprend pas ce qui se passe. Et ben, ce phénomène que tout le monde a déjà peut-être vécu ou dont tout le monde a déjà peut-être entendu à parler a maintenant un nom, plutôt un hashtag, le hashtag Justice Malade. Ce hashtag qui a été lancé à la suite justement de cette tribune, effectivement, qui a été rédigée par des magistrats qu'on appelle la tribune des 3000, parce que au départ, elle a été signée par 3000 magistrats, qui est exceptionnel puisque vous avez les magistrats ont ce qu'on appelle un devoir de réserve, c'est-à-dire une obligation de ne pas critiquer l'institution à laquelle ils appartiennent. Ils sont sortis de cela, ils ont signé cette tribune qu'on pourrait d'ailleurs renommer parce qu'il y en avait 3000 au départ, puis 4000, puis 5000, bientôt plus de 7000 magistrats qui ont déjà signé cette tribune pour dénoncer leurs conditions de travail. Vous me direz 7000 magistrats, l'intéressant c'est peut-être de savoir 7000 sur combien. Et c'est là justement le cœur du problème. 7000 magistrats sur à peu près un peu moins de 10 000 magistrats, c'est-à-dire en réalité quasiment la totalité des magistrats. Et ce nombre de 10 000, c'est le cœur du problème. Parce que justement, ce que dénoncent les magistrats, c'est qu'ils font pas assez. Que 10 000, c'est pas suffisant. Qu'ils ont beaucoup, beaucoup trop de dossiers pour les traiter correctement. Qu'ils ont pas assez de temps pour le faire. Qu'ils ont des horaires qui sont totalement impossibles. On avait des magistrats qui étaient à la télévision hier soir et qui nous disaient, nous, ça nous arrive. Et ça, je vous le dis, c'est mon quotidien, donc je le vis aussi. Des gens qui sont convoqués parfois à 13 heures pour être jugés ou pour avoir une audience et qui vont passer à l'audience parfois à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai de la chance, cet après-midi, j'ai fini à 18h30 pour une audience où j'étais convoqué à 13 heures. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre de 10 000 magistrats aujourd'hui, c'est quasiment le même nombre de magistrats qu'on avait en France au début du XXe siècle. En 1900, quasiment le même nombre pour une population bien plus importante, pour des infractions bien plus importantes, pour une judiciarisation bien plus importante. À titre simplement de comparaison, en France, on a 10 magistrats pour 10 000 habitants. En Norvège, 15 magistrats pour 10 000 habitants. En Allemagne, qu'on prend souvent pour exemple, 25 magistrats pour 10 000 habitants. Deux
fois et demie qu'en France. Ouais. Donc il ne faut pas se plaindre que ça ne marche pas, la justice. En France, vous avez le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui nous a dit oui, mais on a augmenté de 33% dans ces dernières années. Il a dit la justice est réparée parce qu'on accorde 70 euros par an et par habitant à la justice française. L'Allemagne, c'est 131 euros. Dans les 33% dont on vous dit qu'ils ont été augmentés, en réalité, il n'y a que 5% qui ont été attribués à la justice elle-même. Le reste, c'est pour les prisons, pour les aménager, pour mettre les gens encore plus longtemps en prison. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas, parce qu'on n'en met pas les moyens. Alors, on en parle tous les jours à la télévision, dans les médias, on se plaint, la sécurité, la justice, mais en fait, on ne met pas les moyens là-dedans. Et si moi, je dois dire une seule chose, vous savez, il y a des élections présidentielles qui se profile bientôt. Moi, je ne veux pas donner d'instructions, c'est-à-dire qu'il faut voter pour qui ou pour tant. Mais si vous ne voulez voter pour une justice qui marche, il y a une chose extrêmement simple à faire. Votez pour celui ou celle qui vous dira « Je vais doubler le budget de la justice. Ouais. » Parce que si on double pas le budget de la justice, elle sera malade. Et à la fin d'une longue maladie qu'on ne soigne pas, la justice, elle meurt.
Elle meurt, effectivement, et merci de nous avoir rappelé effectivement l'enjeu qui nous attend concernant la justice. Maître Philippe-Henri Honegger, chez Rubin Associé, à la semaine prochaine, avec autant de plaisir.
Avec un très grand plaisir.
Et partagé, absolument. Et bravo pour le film que vous avez... j'ai vu que vous faites l'objet d'une diffusion sur France 2, on peut en faire la pub. Hein.
C'est mercredi soir à 23h sur
France 2. Parlons-en, 23h ce mercredi. Hein.
Exactement, vous allez adorer, ça parle de nous, du cabinet, des pénalistes, de la justice, vous allez voir comment ça marche.
Excellent, bravo. 19h36, tout de suite la pause pub et on se retrouve juste après avec Philippe Nadji-Bouriaki, Pierre-Henri, justement pour les seconds sujets, les deux autres sujets qui nous attendent. Je veux parler du Covid, le variant, mais également aussi du doigt d'honneur d'Éric Zemmour, mais également aussi de l'Algérie et du Maroc. Allez, à tout de suite.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
De retour sur le plateau, justement dans les informés, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
C'est avec Pierre-Henri et Pierre Nadji Philippe Nadji-Bouriaki, pardonnez-moi. Je vais tout de suite juste m'intéresser à ce que disent nos auditeurs. Fatima de Paris, tiens. Bonjour, bonsoir Fatima.
Allô, si bonjour Adil.
Bonjour Fatima, comment ça va?
Bonjour, alhamdoulilah.
Bonjour à
tes invités, je te tutoie parce que tu es comme mon fils.
Eh oui, je vous en prie.
Je suis un ancien modèle, donc je me permets.
Vous pouvez tout vous permettre, Fatima, allez-y.
Dites-moi, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le dernier intervenant, mais moi je voudrais parler de Z, mais moi je ne veux pas le nommer.
Oui.
Maintenant, les médias, ceux qui ont mis Z en haut de l'affiche, ils l'ont lâché. Pourquoi ils l'ont lâché? C'est pas à cause du doigt d'honneur ou quelque chose. Parce qu'ils lui ont fait passer pas mal de trucs.
Oui.
Et pourquoi ils l'ont lâché au profit de Ciotti? Parce que Ciotti, il racole de la même manière que Z, mais comme c'est avec les Républicains, donc ça peut passer. Donc ils ont mis leur espoir sur Ciotti. Ils savent que Zemmour ne passera jamais. Mais Ciotti, si les Républicains le désignent comme candidat,
oui.
Donc il risque de passer.
Oui, c'est un avis qui tient
voilà,
la route. Oui.
Et parce que déjà, il tape à fond sur l'islam et les musulmans, parce que nous, on est devenus moutons.
Oui.
Alors qu'on est français, et des fois plus français que certains. Et ce qu'il veut faire, en plus de regroupement familial, tout le bazar, il veut écrire dans la Constitution que la France est judéo-chrétienne.
Bon.
C'est-à-dire que nous, musulmans,
oui.
On nous met déjà tous dans le panier d'intégristes. Donc nous, on compte pour des prunes.
Bon,
on est des millions et on compte pour des prunes.
Non, mais... En tout cas, c'est dit, ça tient la route, voilà. Hein, ce que vous dites, Fatima. Merci infiniment de votre...
Merci
de votre fidélité. Avant d'accueillir d'autres auditeurs au 0153483000, Pierre-Henri, je voudrais qu'on aborde ce second sujet qui préoccupe tous les spécialistes, toute l'attention évidemment concernant l'Algérie et le Maroc. Est-ce qu'il y a potentiellement une guerre qui est possible, qui est-ce qu'on peut craindre en tout cas une guerre avec cette polémique entre les deux pays en ce moment? Certains d'ailleurs spécialistes disent que tout est possible. Vous dites quoi, vous?
Oui, mais moi je dis que tout est possible et qu'il faut faire vraiment très attention dans un contexte international extrêmement tendu quand vous avez notamment un pays, et je vais le nommer, l'Algérie, qui est en proie à des difficultés internes et qui se cherche un ennemi extérieur. À partir de ce moment-là, hélas, tout est possible. Et les affrontements armés qui ont eu lieu en 1975 peuvent très bien se reproduire. Alors, ce qui me rassure, c'est tout de même que la population des deux pays ne veut absolument pas, évidemment, de cette confrontation qui est fratricide. Je rappelle que il y a peut-être, s'il faut faire des suggestions à la fois à l'Algérie et au Maroc, il y a sans doute une voie de travail intense qui est tout simplement l'unité du Maghreb. Je rappelle tout de même que si elle était faite, ça serait 5% de plus de croissance. Ouais. Et le bonheur des gens, évidemment, à la clé. Là, vous avez une junte militaire. Alors, je sais que je vais me faire pourrir la vie.
Vous m'apprêtez à vous dire.
En disant cela, je vais encore me prendre quelques papiers dans Algérie patriotique, comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Quand vous avez une junte militaire qui, évidemment, pour détourner le Irak, trouve un ennemi extérieur comme le Maroc, se sert de l'accord entre le Maroc et Israël pour ranimer un certain nombre d'émotions et de conflits autour de la question palestinienne. Oui, on peut tout craindre, ouais.
On peut tout craindre. Bon, en tout cas, vous avez exposé votre point de vue. Philippe Nadjibourier, qui vous en pensez quoi, vous? Vous dites quoi avant de retrouver Hakima de Paris?
J'appelle tout le monde au calme.
Oui.
Pierre-Henri a dit quelque chose de juste. S'il y avait ce fameux grand Maghreb uni, dont certains, on sait, qui ont tout fait pour ne pas que ça arrive, c'est 5 points de croissance pour tout le monde. Tout le monde a y gagné.
C'est énorme, 5%.
Une guerre fratricide, premièrement, ça coûte du fric. Premièrement, deuxièmement, on va verser du sang et des larmes. Ce sont des gens qui s'aiment énormément des deux côtés. Enfin, je comprends
pas.
De pays frères. On se rappelle pour la révolution algérienne que le Maroc était la base arrière des Moudjahed. Et donc, je comprends pas à quel moment ça a pu déraper, à quel moment il peut y avoir cette tension. Enfin, il y a plein de gens qui sont en train de rigoler, de se frotter les mains, surtout déjà les vendeurs d'armes, ils sont très contents là, du coup. Enfin, j'appelle de mes vœux, et je suis pas le seul, on est nombreux avec des amis franco-algériens, franco-marocains, algériens et marocains, on appelle à ce qui est l'unité et l'amour fraternel qui existe entre ces deux peuples.
Oui. Sauf que dans cette question,
Pierre-Henri, excusez-moi.
Oui, mais c'est pas grave. Dans cette
Pierre
question,
c'est Pierre et Philippe, c'est Philippe.
Oui, Philippe est un autre. Non, dans cette question, la société civile compte peu. Et hélas, et quand je vois qu'un ancien militaire à la retraite, mais quand même, on ne sait jamais, en Algérie, dit qui s'appelle Ahmed Benchana, qui considère que récemment un incident survenu dans le Sahara occidental est une déclaration de guerre contre l'Algérie, et que le mot guerre n'est plus un tabou. Je m'inquiète évidemment de ce discours guerrier.
Bon, et bien écoutez, nous, vous le savez, Beurre FM est là pour évidemment la fraternité.
Évidemment.
Et évidemment, c'est tout le souhait évidemment concernant ces tensions, ces polémiques. Tiens, j'ai Hakima qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Hakima. Hakima.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute. Bienvenue à vous, ma chère Hakima.
Merci beaucoup. J'ai une question pour vous, Adil.
Oui,
comment ça se fait que vous n'avez jamais parlé de trois Algériens qui ont été tués dans le Sahara occidental par le
Marzen. Si on en a parlé, vous rigolez ou quoi? Bien sûr que si. Enfin, vous rigolez. Je suis un peu trivial, mais on en a parlé. Bien sûr que oui, on en a parlé. Il y a. C'est même un peu plus d'un mois, cette histoire.
Hein. Oui, c'est ça.
Un peu plus d'un mois, il me semble. On en a parlé, y compris, j'avais ouvert l'antenne ici. Hein. J'avais ouvert l'antenne, on en avait parlé, effectivement. Et beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs, ont réagi. Hein.
D'accord, bon. Voilà. J'ai une question. Pour le premier intervenant, je ne sais pas comment il s'appelle.
Il y a Pierre-Henri.
Toujours Pierre-Henri.
Oui.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
Il vous écoute.
Qu'est-ce qu'elle fait encore la France en Afrique? Qu'elle lâche le morceau.
Eh bien, merci. Merci à qui m'a.
On n'appartient pas à vous. L'Afrique appartient à Ouzafrica.
Ouais, bah c'est c'est pas l'État français en même temps.
Bien, oui, enfin,
alors Akima, il va vous répondre. Oui. Akima, merci pour votre intervention.
Non,
vous n'êtes pas là pour poser des questions. Akima, je vous remercie infiniment. Encore, non, vous êtes là pour intervenir, pour commenter l'actualité, pour éventuellement poser une ou deux questions. Mais vous savez, sinon vous venez ou vous participez à l'émission. Je vous invite à venir sur le plateau, ma chère Akima, évidemment, sans aucun problème, si vous souhaitez faire les questions auprès des intervenants. Il n'y a aucun problème à Kima. Pierre-Henri, qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui réponds tout simplement que c'est un peu facile et attendu. Il y a une question entre le Maroc et l'Algérie, et donc il faut trouver un troisième larron responsable de tout cela. Ce serait bien évidemment la France.
Qu'est-ce que vous répondez à Kima quand elle dit que la France laisse tranquille l'Afrique?
Mais que la France laisse tranquille l'Afrique, oui, mais qu'elle noue des rapports de coopération sur une base égalitaire, oui, bien sûr, je partage ça totalement.
Il partage votre conviction, Akima, voilà. Donc on est, et en même temps, Akima, Pierre-Henri ne représente pas l'État français, voilà. Hein, ouais, effectivement. Donc,
pas encore,
bientôt peut-être.
On disait la présidentielle ou pas, Pierre-Henri?
Je vais regarder
il a
ça
le costume.
Pour 2027.
Il a le costume, en tout cas, il est là.
Ça y est. Je pense que tu auras mon parrainage.
Allez, un petit peu.
Candidat en 2027.
Il nous reste 3 minutes et je voudrais qu'on parle du Covid, le choix d'Omicron, donc pour désigner le nouveau variant. Alors, qu'est-ce que vous dites, messieurs? Est-ce qu'on doit tout simplement s'en inquiéter? Parce qu'on voit un peu que l'Organisation mondiale de la santé dit attention, elle lance des alertes, hein, les alertes dans les listes des pays, justement en Europe, très contagieux, provoquant des symptômes différents des autres variants. Et possiblement résistant au vaccin anti-Covid. Pierre-Henri, on dit quoi? Philippe Nadjibouayaki?
On dit ce que l'on dit depuis le début, en l'occurrence que le vaccin progresse.
Mais là, il vous dit qu'il n'est pas résistant.
Mais non, attention.
Au vaccin.
On peut être infecté quand on est vacciné. Il y a simplement une grosse différence avec les non-vaccinés, c'est que les vaccinés vont très rarement en réanimation et développent très rarement des formes graves. Et quand à la...
Mais avec ce nouveau, variant.
J'ai lu un certain nombre d'études sur cette question qui montrent que pour l'instant, rien ne dit qu'il a un caractère tout à fait
On a passé de recul. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne disait qu'il fallait avoir un recul de 3 semaines, donc c'est peut-être prudent de fermer les frontières pour éviter la progression du virus. Mais je rejoins Pierre-Henri, c'est vrai que pour l'instant, effectivement, et les chiffres le montrent, être vacciné vous évite des formes graves, donc encombrer les urgences. Moi, j'ai un message à Olivier Véran, je sais qu'il écoute ton émission en ce moment. Monsieur le ministre, moi j'ai voulu m'inscrire tout à l'heure sur Doctolib pour faire ma troisième dose de rappel qui est censée être le 11 décembre. J'ai pas de place avant février 2022 dans le meilleur des cas. Donc pourquoi vous avez fermé les vaccinodromes? On peut les rouvrir, c'est il y a 2 semaines, donc à mon avis tout est dans les starting blocks là.
Ça vous inquiète?
Ça m'inquiète, moi je veux bien faire le citoyen modèle et obéir aux consignes et aux informations
qui sont données par cette dose. Oui.
J'ai fait ma troisième dose.
Sans problème.
Sans aucun problème.
Ouais.
Il y a environ 3 semaines.
Il l'a fait il y a 3 semaines.
Oui.
Bah oui, mais à ce moment-là, c'est pas ouvert,
oui,
moi. C'est pas ouvert pour
Monsieur, moi,
pour les jeunes comme moi.
Il est pistonné, Pierre-Henri.
Je crois au vaccin, ouais. Donc j'anticipe et je savais très bien que.
Il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le nouveau variant. Non, non, c'est pas la peine de se mettre dans des états alarmistes.
Non, mais je veux me faire vacciner, je peux pas.
Je suis pas infectiologue. Par contre, ce que j'ai lu. Des différentes études sur cette question montrent qu'il n'est pas plus dangereux que d'autres.
Oui, et puis, c'est ce que j'ai vu aussi.
Et puis, vous savez, il va falloir vivre avec de multiples variants. Hein. Et donc, il va falloir s'adapter. Voilà. Vous voyez bien la situation qu'il y a aujourd'hui en Europe. Finalement, l'affaire du pass sanitaire qui a été très critiquée au moment où le président de la République l'a promu. A fait son effet. Nous sommes un des pays en Europe qui est le plus vacciné. Aujourd'hui, les pays pas qui choix, suivent si la voie.
Si tu veux garder une vie sociale, t'avais pas le choix que de te faire vacciner.
Mais
faut reconnaître aujourd'hui que par exemple en Autriche, il y a un confinement pur et dur. Et ils prennent les devants. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est nous? On le saura dans quelques temps.
Nous avons eu raison.
Effectivement. Ils ont raison ?
Non, nous avons eu raison de faire le pass sanitaire avant l'heure et de faire en sorte que 86% de la population soit vaccinée aujourd'hui.
Merci messieurs, merci.
Merci beaucoup.
Philippe Nadji-Bourrier qui est conseiller régional, donc c'est merci ça. À vous. Vous revenez évidemment à très bientôt.
À très bientôt, merci Adil.
Pierre-Henri, le patron de France Fraternité qu'on retrouve tous les samedis à 8h20 et dimanche.
Samedi, 8h20.
Dimanche, 8h20.
Voilà, pour un prochain mot.
Les mots piégés. Bonsoir mon cher Bilal.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme qui nous attend de 20h21 dans Time Sport?
La cérémonie du Ballon d'Or 2021.
Exact.
On va voir si c'est
Benzema
ou Messi, on ne sait pas encore.
Ou Messi?
Messi. L'international français, j'aurais aimé.
Benzema.
On va parler aussi de Sergio Ramos. L'ancien international espagnol.
Lequel? Celui qui est au PSG.
Blessure aussi, Pierre-Henri. La blessure de Neymar.
Catastrophe. Il est toujours blessé, Neymar. Il est toujours blessé.
Et voilà, quoi. Et on reviendra en tout cas sur cette cérémonie parce que ça fait tant parler.
Non, mais vous avez l'info pour Mbappé ou pas?
Benzema.
Aïe. Mbappé avec Titi Henry.
Vous n'êtes pas au courant?
Qu'est-ce que Bilal de 20h à 21h, Bilal Nedman, merci à vous messieurs. La réalisation c'était Giovanni. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.